De retour, la vie n'est pas faite que de mauvaises nouvelles et de contraintes. Il y a aussi des bonnes choses qui se passent. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Dr José Larochelle. Bonjour, docteur.
Bonjour, M. Beauregard. Merci de l'invitation.
Ben, ça nous fait plaisir. Je pourrais décliner tout ce que vous faites d'être physiatre pédiatrique au Centre de réadaptation Marie-Enfant du CHU Sainte-Justine, au Centre de réadaptation aux déficiences physiques du CIU 3S du Centre Sud de l'île de Montréal. Mais ce qui nous importe davantage encore aujourd'hui, c'est de parler d'une maladie terrible pour laquelle voilà finalement un rayon d'espoir.
Tout à fait, l'amyotrophie spinale, qui est une maladie génétique, dégénérative, et pour laquelle maintenant on a des modalités de traitement qu'on n'avait pas avant. Ce sont les premiers à franchir la barrière du futur avec des traitements qui changent complètement la vie des gens, qui les rend beaucoup plus autonomes, qui permettent une meilleure intégration dans la société et qui améliorent aussi la durée de vie. Absolument incroyable. Oui.
Ben, bravo. Avant d'aller plus loin, puis oui. on va parler de ce que c'est l'amyotrophie spinale. Comment ça se présente physiologiquement? Un enfant qui naît atteint d'amyotrophie spinale, qu'est-ce qui arrive à son corps?
Oui. Fait, classiquement, il y a quatre types. Le type 1 et le type 2 sont les plus fréquents. Alors, dans le type 1, on ne se serait jamais assis. Donc, on est toujours couché pour le restant de nos jours et on meurt très rapidement. Le type 2, on peut s'asseoir, mais et la durée de vie est un peu plus longue, mais tout de même très limitée. On ne se rend pas à l'âge adulte. C'est des gens qui sont complètement intelligents, donc qui ont regard, qui sont conscients de leur environnement, communiquent très bien, mais qui sont prisonniers de leur corps, ne peuvent pas bouger, outre peut-être certains mouvements des bras et des mains. C'était le passé, bien sûr.
Mais c'est une maladie où, en fait, la connexion nerveuse entre le cerveau et les muscles du corps est brisée.
Exactement.
C'est presque comme une maladie médulaire, comme un accident médulaire, là, comme on en voit.
Oui, ça touche effectivement les cellules de la corne antérieure, donc une partie de la moelle épinière. Et non seulement ça, c'est que ça va à rebours aussi, puis une dégénérescence qui s'installe. Donc, c'est une maladie qui devient de plus en plus grave à mesure qu'on avance.
Et les gens sont conscients, intelligents, et savent ce qui leur arrive. Alors, ça, c'est vraiment terrible.
Oui.
Mais maintenant, voilà, il y a des solutions, il y a des pistes de traitement.
Oui, il y a des solutions. Évidemment, probablement la plupart d'entre nous, on est familier avec le traitement à 2 millions de dollars.
OK.
Et onazemnogène AB Parvovec, là, qui est le médicament qui est donné idéalement avant l'âge de 6 mois. Il y a des critères selon les provinces. Et qui fait que si c'est donné avant l'apparition des symptômes, on s'attend pratiquement à un développement, pour la plupart, normal pour l'enfant.
D'accord.
Donc, c'est absolument incroyable. Quand c'est donné un peu après, on a quand même des résultats intéressants, mais un peu moins. Il y a d'autres médicaments qui ont précédé celui-là, et qui aident justement à améliorer aussi la détérioration, on va dire, des symptômes.
Ça va ralentir la maladie qui génétique, le
oui.
corps est tranquillement
oui.
se défait,
oui.
si je peux
oui.
dire.
Oui.
Et ces traitements-là sont relativement récents. Alors là, vous commencez à avoir une cohorte d'enfants qui ont bénéficié du traitement.
Oui. Bien, en fait, le dépistage néonatal au Québec vient tout juste d'être approuvé.
D'accord.
Donc, au Québec, pour nous, on va commencer à voir des résultats encore plus intéressants pour les patients qui recevront la thérapie génique avant l'apparition des symptômes. Alors ça va vraiment être intéressant. Pour les autres, effectivement, ça fait quelques années pour les autres traitements. Et c'était pas facile parce que c'est une maladie qui est rare. Donc, il faut
oui.
vraiment regarder toutes les petites choses. Il nous manque d'outils objectifs pour bien voir les améliorations ou la non-détérioration. Alors, on allait chercher toutes les petites choses qu'on pouvait, comme par exemple, il y avait un jeune qui, avant, n'était pas capable de se gratter le nez. Maintenant,
d'accord.
il est capable de se gratter le nez, remettre sa casquette. C'est des petites choses simples qui changent une vie. Ouvrir un tiroir.
Oui.
On fait ça
tous les jours. Hein? On se gratte le nez, on met sa casquette,
oui.
on ouvre un tiroir.
Mais pour eux, ça leur permettait de sortir
ben oui.
de leur corps et de faire des petites choses qu'on considère, qu'on prend pour acquis.
Et je peux imaginer la joie et l'espoir que ça amène d'être conscient que voici quelque oui. chose de simple que je ne pouvais pas faire.
Oui,
et que
tout
maintenant,
à
je
fait.
suis en mesure, puis là, ça ouvre la porte à dire peut-être qu'il y a d'autres choses que je vais être capable
Tout à fait.
d'accomplir. Alors, comment ça fonctionne, cette thérapie-là? Qu'est-ce qui manque chez les gens qui sont atteints de la myotrophie spinale? Est-ce que, du point de vue, est-ce que c'est une protéine
Oui.
qui manque à l'appel, qui ne travaille pas et conséquemment, ça crée une dégénérescence? Comment ça fonctionne?
Oui, fait que en fait, on a deux protéines dans le corps qui se nomment SNM1 et SMN2.
D'accord.
Et chez les gens qui sont atteints de la myotrophie spinale, la protéine SMN1, pardon, est absente.
OK.
Donc, c'est la protéine SMN2 qui compense, mais elle fait des protéines de moins bonne qualité.
D'accord.
Donc, les gens qui n'ont pas de SMN1, on compte le nombre de protéines SMN2 et évidemment, on semble voir que moins on a de protéines SMN2, donc celle qui est déficiente mais qui fonctionne chez les gens atteints, plus on est atteint et plus on en a, moins on est atteint, généralement.
D'accord.
Donc,
Et la
oui.
thérapie consiste à favoriser la création de cette protéine-là, chez les gens qui naissent avec la myotrophie.
Oui, ben pour le, oui. En gros, si on résume ça, c'est un peu comme ça. Et ça fait en sorte que les gens, comme ils ont un muscle qui est beaucoup plus fonctionnel, qui a moins de dégénérescence. Mais c'est pas un traitement, pour ce qui est des deux autres traitements, c'est pas un traitement qui est parfait. Avec la thérapie génique, on va un petit peu plus loin et c'est là qu'on a une protéine qui est beaucoup plus efficace.
Et évidemment, ben là, ça commence, comme vous dites, avec le dépistage prénatal, parce que plus le protocole est mis en place tôt dans la vie de l'enfant, plus les chances, évidemment, de stopper la maladie sont évidentes. Est-ce que ce dépistage-là, maintenant, va être universel au Québec?
Oui, tout à fait. En fait, j'ai pas les dates exactes. Ça vient d'être approuvé récemment.
D'accord.
Mais effectivement, on a le temps entre le moment du diagnostic et le moment où ils reçoivent le gène qui reçoivent la thérapie génique. Plus c'est court, mieux c'est. Alors, on a mis en place et on continue de mettre en place des mécanismes pour que ces jeunes patients aient la thérapie rapidement. Et ensuite, après ça, on peut travailler les muscles. Parce que ce qu'on s'est rendu compte avec les deux premiers traitements, c'est qu'une fois que le muscle est atteint et détruit, dans le fond, qu'il ne reste plus autant de fibres musculaires, c'est difficile de retourner en arrière. Ça se fait, mais ce n'est pas aussi efficace que ceux qui ne l'ont pas perdu.
Parce qu'évidemment, si la maladie provoque une coupure, si je peux dire, de l'exécution des gestes volontaires, le muscle ne servant à rien, il finit par disparaître, là. C'est un peu comme quelqu'un
Exactement.
qui porte un plâtre pendant 6 semaines, sa jambe est tout petite après, ou
Oui.
la même détérioration musculaire qu'on peut retrouver dans d'autres types de maladies. Et c'est ça qui fait que le corps ne travaillant pas, les muscles eux-mêmes, ben,
Exact.
disparaissent. Et là, ça se remplace pas.
Exact. Et ça change même, je dirais, là, on parle beaucoup évidemment des médicaments en tant que tels, mais ça change la façon qu'on fait de la médecine suivant ce traitement-là.
D'accord.
Alors qu'avant, les gens avec la myotrophie spinale, on n'envisageait pas faire de chirurgie de hanche parce que, bon, il n'allait pas nécessairement marcher. On regardait la scoliose d'une autre façon. Il y avait des atteintes respiratoires qui devenaient de plus en plus sévères. Même les prescriptions d'aide technique, d'orthèse, de fauteuil roulant, tout change, en fait. On a toujours l'objectif de maximiser, d'optimiser la vie, donc les activités de la vie quotidienne, les déplacements. Mais tous les médecins qui sont impliqués dans le soin de ces patients-là doivent apprendre à voir les choses différemment. Et on est dans un terrain complètement inconnu parce qu'on ne sait pas jusqu'où ces gens-là, les gens avec la myotrophie spinale, vont aller. Donc, c'est vraiment un travail collaboratif ultra intéressant pour le mieux-être de ces personnes-là.
Parce que comme vous l'aviez dit d'entrée de jeu, avant l'existence de ces traitements-là, l'espérance de vie des enfants atteints d'amyotrophie spinale était terriblement courte, là.
Oui.
Ils ne franchissaient pas le cap des 6 ans, des fois, là.
Oui, exactement. Même à 2 ans,
Ouf.
selon la teinte et moins. Effectivement, maintenant, on déborde largement de ça. Ça change complètement la façon qu'on fait la médecine. Et on mentionne dans un des articles qu'il bouleverse les manuels médicaux, mais c'est tout à fait le cas. Il y a des recommandations qui ont été émises il n'y a pas si longtemps. Il faut complètement les refaire parce que ils ne sont plus les mêmes personnes qu'ils étaient. Et ça nous donne l'espoir par rapport à leur futur puis à leur inclusion dans la société.
Dans la société, tout à fait. Oui. Vous aviez parlé du traitement à 2 millions, puis parfois... Oui. C'est des chiffres comme ceux-là, ça frappe l'imagination populaire d'une façon qui n'est pas toujours judicieuse, hein? Parce que ça coûte bien cher, ils pourraient faire d'autres choses avec cet argent-là. Oui. Mais là, on parle de changer, de donner la vie à quelqu'un qui ne vivrait pas.
Tout à fait. Puis dans les faits, on s'entend qu'il y a quand même des subventions gouvernementales. Oui. Puis je ne suis pas certaine que ça coûte réellement 2 millions. Et si on tient compte des coûts en lien avec les hospitalisations, en lien avec la non-participation sociale et communautaire, probablement que c'est pas aussi cher qu'on peut se l'imaginer.
Oui, tout à fait. Et puis, en créant un dépistage puis une politique, je dirais, autour de ce traitement-là, on peut penser aussi que les coûts vont commencer à diminuer en conséquence. Bien, docteur Larochelle, ça donne vraiment beaucoup d'espoir aux parents qui, dans le passé, à la naissance de l'enfant, là, si je peux dire, la joie de la naissance était rapidement transformée en drame. Maintenant, il y a quelque chose à espérer. Bon, bien, tant mieux. Est-ce qu'il y a d'autres recherches qui continuent dans ce sens-là? Est-ce qu'on peut penser qu'on va faire un autre bond en avant?
Peut-être pour la myotrophie spinale, peut-être, mais certainement pour d'autres maladies.
D'accord.
Qui en viennent, l'ataxie de Friedreich, la maladie de Pompé, la dystrophie musculaire de Duchenne, ce n'est que la première étape, le premier pas dans la direction du futur.
Donc, il y aura d'autres maladies, je dirais, neurodégénératives qui pourraient profiter de tout ça et on pourrait élargir le champ. Ben, c'est merveilleux. Je vous remercie, Dr. Larochelle, de nous en avoir parlé.
Merci à vous. Bonne journée.
Merci.